dans laquelle le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Alors, traditionnellement, on raconte que c'est la cause de cette non-mention du nom de Moshe, c'est que quand Hachem avait condamné les Bnei Israël à mort à la suite du veau d'or, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, j'en ai, bon, ça suffit, je veux plus de ce peuple, j'arrête avec lui et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Et Moshe Rabbeinu, bien entendu, comme vous savez, il a refusé. Il a refusé, là pour le coup, de Messirut Nefesh, il a dit à Hachem, ou bien tu leur pardonnes, ou alors tu m'effaces de ton livre. Et donc, c'est Hachem qui a cédé. D'accord? C'est là, Hachem a cédé, et tout à la fin de sa vie, quand Moshe Rabbeinu a voulu intercéder encore une fois pour entrer en Eretz Israël, alors Hachem lui a dit, écoute, moi, je veux pas que tu entres en Eretz Israël. Et toi, tu veux. Alors, on a déjà eu un conflit. Moi, je voulais détruire les Bnei Israël et toi, tu voulais pas. C'est moi qui ai cédé. Cette fois-ci, c'est à toi de céder. Mais si tu veux, on peut tout recommencer. Et c'est toi qui cèdes. Et tu acceptes que je détruise le clan d'Israël et que je continue avec toi. Et à ce moment-là, tu pourras entrer en Eretz Israël. C'est moi qui, moi, je céderai dans la deuxième situation. Alors, du coup, Moshe Rabbeinu a dit, non, évidemment, je veux pas du tout recommencer. Donc, voilà. Il a dû céder, Moshe Rabbeinu. Parce qu'Hachem avait déjà cédé ici pour sauver comme Moshe a voulu sauver les Bnei Israël. Mais comme Moshe avait dit, si tu ne cèdes pas, si tu ne leur pardonnes pas aux Bnei Israël, alors tu peux m'effacer de ton livre. Alors cette phrase, effacer le nom de Moshe du Sefer Torah, ça s'est réalisé ici dans cette paracha. C'est une explication. Maintenant, si vous avez déjà jeté un petit coup d'œil sur cette paracha de Tetzavé.
Bonsoir.
Bonsoir, revenant.
Bonsoir.
Donc, ça fait plaisir de vous voir.
Merci, moi aussi.
Alors, il faut toujours se faire désirer comme ça, de temps en temps.
Non.
On s'en va, puis après on revient, on est bien reçu. Ça, c'est... Parce que les autres, je ne leur dis pas que ça me fait plaisir de les voir, mais je ne leur dis pas.
Parce qu'ils sont plus fidèles.
Parce qu'ils sont là tout le temps, donc.
Ah oui.
Bon, ben, à bientôt, Rav.
vous avez déjà reçu quelque chose ce matin, ce soir. Hein. Donc maintenant, il devient de plus en plus gourmand. Alors, c'est dans cette paracha, hein, le nom de Moshe, effectivement, n'apparaît pas, mais ça commence tout de suite. « Ve'ata tetzave et bnei Israël » Vikru Elecha. Et puis ensuite, bien plus tard, c'est aussi de nouveau la même chose. Ça va être le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe ne figure pas. Mais Moshe, il est très fortement là. Alors, j'ai vu le Gaon de Vilna. Il donne des explications sur justement l'absence du nom de Moshe, différent de... Enfin, c'est un midrash que je vous ai raconté là. Il y a d'autres midrashim. Alors, il y a une première explication et donc, que le Gaon de Vilna a donnée, ce qui est la suivante. Moshe Rabbeinu, il va disparaître le Zayin Adar. le 7 Adar. Et la plupart du temps, Zayin Adar tombe dans la semaine où on lit Parshat Tetzaveh. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui savait, évidemment, que Moshe Rabbeinu allait disparaître le Zayin Adar, alors il a enlevé le nom de Moshe dans cette paracha-là pour être Meramez. C'est une façon de marquer dans la Torah qu'effectivement, Moshe Rabbeinu disparaîtra dans cette paracha-là. C'est une explication. Une autre explication qui est, si vous regardez à la fin de Parshat Tetzaveh, très souvent dans les Chumashim, il est marqué combien de psukim il y a dans la paracha. Pas dans toutes les éditions, mais souvent, à la fin, vous avez, si vous allez à la fin de Tetzaveh, je vais y arriver quand même, voilà, c'est marqué qu'il y a Kouf Aleph 101 psukim. Et en général, on trouve un mot dont la gématria est le nombre de psukim. Alors ici, c'est très connu. 101, c'est la gématria du mot Michael. Donc, quelque part, on a cette histoire de 101 et de Michael qui a à voir avec la parcha de Tetzaveh. Alors, le Gaon a expliqué comme ça. Donc, le siman de ces 101, c'est Michael. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que il existe, je vous explique d'abord le processus. Quand on écrit un mot en Lashon HaKodesh, d'un mot de la Torah, alors, prenons le mot Moshe. Le mot Moshe, il s'écrit Mem, Shin, He. Si maintenant, on écrit les lettres complètement, c'est-à-dire, au lieu de Mem, comment est-ce qu'on écrit Mem en Lashon HaKodesh? Mem, Mem. Ça se lit Mem. Comment est-ce qu'on écrit Shin? Shin, Yud, Nun. Comment est-ce qu'on écrit He? Il y a plusieurs écritures pour le He. C'est He, Aleph. Alors, si vous prenez toutes ces lettres-là et vous enlevez les lettres qui... Vous enlevez de cet ensemble de lettres, de Mem, Men, Shin, Yun, Nun, He, Aleph, vous enlevez Mem, Shin, He, les lettres qui sont explicites dans le texte. Alors, vous avez la partie cachée du nom de Moshe. La partie cachée, c'est la partie qui est constitué avec les lettres qu'on ne prononce pas. D'accord? Alors, si vous faites la somme des valeurs numériques de ces lettres-là, vous avez un même. Même, c'est 40. Et ensuite, vous avez Yud Nun. Yud, c'est 10. Nun, c'est 50. Ça fait 60. 40 et 60, ça fait 100. Et la lettre qu'on ne prononce pas dans la partie cachée du He, c'est Aleph. Vous avez 101. Et 101, c'est, comme on a vu, la gématria de Michael. Ça veut dire, dit le Gaon de Vilna, qu'effectivement, la partie apparente du nom de Moshe ne figure pas dans la paracha, mais la partie cachée du nom de Moshe, c'est l'ensemble de la paracha. C'est tous les psukim, les 101 psukim, de la paracha, c'est la partie cachée du lettre de Moshe, du nom de Moshe. Donc c'est pour ça que le nom ne figure pas, mais il figure la partie cachée. Et curieusement, cette partie cachée de Moshe, c'est intéressant, bon, ça nécessiterait peut-être plus de développement. Pourquoi la partie cachée de Moshe, ça correspond justement au 101 psukim de la paracha de Tetzaveh. Mais justement, quand on lit ce qui frappe quand on lit la paracha de Tetzaveh, c'est le rôle de Moshe, bien que son nom ne soit pas prononcé. Ve'ata Tetzaveh. Toi, ou quant à toi, tu vas ordonner. Alors, vous remarquez que la parachale commence par un vav. Ve'ata. Quand les parachutes commencent par V, ça indique un lien avec la paracha précédente. Le vav. Il relie avec la paracha précédente. La paracha précédente, c'était la description, en gros, si vous voulez, la description des matériaux nécessaires à la construction du Mishkan et la description de la construction du Mishkan avec ses matériaux et la description aussi du gros mobilier du Mishkan, c'est-à-dire le Shulchan, le Aaron, le Shulchan et le Mizbeach Anochoshet, et le Mizbeach de cuivre qui est dans la cour qui est devant le Mishkan lui-même, quoi, dans le Chatser. Et dans notre paracha, de quoi parle-t-on? Comme vous savez, on va parler des vêtements des Kohanim assez longuement, de la fabrication des vêtements des Kohanim. Être en gros l'essentiel de la paracha. On raconte comment ils seront portés, quelle est leur fonction, qu'est-ce qu'on utilisera comme matériaux, etc., pour tous ces vêtements. Les vêtements du Kohen Gadol, les vêtements des Kohanim ordinaires. Et puis l'opération de sanctification des Kohanim et des Leviim et du Mishkan. On va le sanctifier. On va sanctifier les hommes, ils vont apporter un corban digne de Milouim, c'est-à-dire des 8 jours d'inauguration de Chanukat à Mishkan. Mais juste avant, il y a les psukim là qui viennent. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vata tetzaveh et bnei Israël, vikru elecha. Vous voyez, on entend ici vikru elecha, ça sonne comme vikru li, comme dans Trouma. C'est assez énorme. Pourquoi est-ce qu'il faut l'apporter à Moshe? Vikru elecha, shemen zait zach, katit la maor, la alot nertamit. C'est-à-dire, ils t'apporteront l'huile d'olive pure, débarrassée de toutes ces scories, katit, donc pressée pour la maor, la alot nertamit. C'est-à-dire pour éclairer le maor, pour la lumière, des nérotes, les nérotes qui sont appelées tamid. Alors ici, il y a une leçon sur le tamid, on reviendra sur le reste. De quoi on parle ici? On parle de la menorah. La menorah, c'est ce fameux chandelier à 7 branches dont on sait qu'il est fait à partir d'un seul lingot. C'est un gros lingot. Et tout est pris dans le, c'est pas du tout, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas d'autres moyens de coller les choses ensemble. C'est pris dans la masse. On a sorti dans la masse les différentes branches qui font la menorah avec leurs décorations, etc., kaftor baferach, etc. Et c'était tellement difficile à penser que Moshe Rabbeinu n'y arrivait pas. Et Hachem lui a montré dans le ciel, il lui a montré une menorah en feu qui voit exactement ce que ce qui était à faire. Alors, la menorah, ici on parle simplement, voilà, ils vont amener de l'huile pour la menorah. Et on nous dit, et le verset suivant, que Boel Moed, Michutz la Parochet, c'est-à-dire dans le Boel Moed, à l'extérieur du rideau, le rideau, c'est bien sûr le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh à Kodashim, le Kodesh du Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? Il y a uniquement le Aaron. Le fameux Aaron avec ses badim, avec les barres, qu'on n'enlève pas, même quand on campe pour longtemps. Donc dans le Kodesh à Kodashim, il n'y a que ça. Puis après, il y a un rideau. Et de l'autre côté du rideau, vous avez au sud, côté sud, vous avez la menorah. Et côté nord, vous avez le shulchan, la table. La table sur laquelle il y aura les fameux pains. Les pains qu'on va mettre le Shabbat et qui vont être changés Shabbat d'après. Les pains qui restaient frais de Shabbat à Shabbat, etc. C'est de ces pains que Korach s'est moqué quand il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. C'est la table, c'est la parnassa, c'est le matériel. Alors on nous dit, il sera de l'allumage, enfin il crousse la parochette en dehors, à l'extérieur du rideau, cher al à Edout, le rideau qui est au-dessus, enfin qui sépare de ce qu'on appelle Edout. Vous vous souvenez, on a vu la semaine dernière que Edout, c'est un nom pour parler du Aaron, parce que le Aaron, donc les louchotes qui sont dedans, elles témoignent de ce qu'Hachem nous a donné la Torah avec les mitzvot, etc. Je pense que ça s'appelait Edout qui veut dire témoignage. Alors, de l'autre côté du rideau, etc., Ya'aroch oto Aaron uvanav. Aaron et ses fils vont allumer ses nérotes et elles vont brûler, mais erev ad boker. L'allumage des nérotes de la menorah, ça se faisait en fin d'après-midi, vers le soir, et ça, on mettait du combustible, c'est-à-dire de l'huile d'olive, pour que ça brûle jusqu'au lendemain matin. Ça brûlait l'ifné Hachem, devant Hachem, et chukat olam, le dorotam, met bnei Israël. C'est un décret éternel. Un décret éternel pour les bnei Israël. Dans toutes les générations, il faudra faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on allume la menorah tous les jours. Mais on ne met pas de combustible pour que ça brûle en permanence. Je vous ai dit, ça, on met du combustible pour que ça brûle du soir jusqu'au matin. Et pourtant, ça s'appelle tamid. Et tamid, ça veut dire toujours. Et donc, on voit ici que tamid, ça ne veut pas dire toujours, mais ça veut dire tous les jours. Donc, chaque jour. Tous les jours, ça veut dire, ça brûlera tous les jours. On appelle ça tamid. Le sacrifice qu'on amène aussi matin et soir, il est aussi appelé tamid. Le tamid shel shachar, tamid shel ben arbaim. Mais aussi, on l'amène on n'amène pas en permanence. C'est tamid là aussi tous les jours. Mais là, c'est deux fois par jour. Enfin, on peut dire une fois par jour celui du matin, une fois par jour celui de l'après-midi. On peut entrer là, c'est pas maintenant le moment de parler, on parlera de ça dans Vaikra, même dans Pinchas aussi, plutôt dans Pinchas d'ailleurs. Et là, on appelle ça tamid. Donc ça, c'est une chose importante. Et vous voyez, le verset qui vient juste après, au début du nouveau chapitre, bon, c'est pas très important, mais Ve'ata, de nouveau, Ve'ata, et toi, Akrev Elecha, rapproche de toi est Aaron Achicha et Banav Ito, Aaron ton frère et ses fils avec lui, Mitoch Bnei Israël, tu les singularises, ces cinq personnes, Aaron et quatre fils, tu les singularises dans le clan d'Israël. Il y avait cinq Kohanim à l'époque, en tout et pour tout. Cinq Kohanim. Le Chan Oli, ils vont me servir. Aaron, et on nous dit les, donne les noms. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, Bnei Aaron. Donc il y a Aaron et ses fils, quatre fils, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Nadav et Avihu qui vont disparaître au moment de l'inauguration. Et il restera Elazar et Itamar. Il y en a un qui va être ajouté, c'est Pinchas. Et ça, c'est plus tard. Donc, de quoi on nous parle? On nous parle de la menorah. Et ensuite, on va parler des vêtements des Kohanim. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là, la menorah, entre la construction du Mishkan et les Bigdei Kehuna? La construction du Mishkan, il fallait que le Mishkan existe, il fallait le construire, mais on parle pas, on n'a pas parlé du fonctionnement du Mishkan. Donc c'est la construction de la résidence d'Hachem. Pour l'instant, c'est ça. Asuli Migdash Veshachanti Betocham, ils me feront un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. C'est sa résidence, la résidence divine. Donc il fallait la construire, mais c'est tout, c'est la résidence. Dans cette résidence, on a parlé que cette résidence, il y a un mobilier, et puis en dehors de ce mobilier, mais malgré tout, c'est même un peu étonnant, pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie du mobilier, la menorah, au même titre que le Shulchan et que le Aaron, etc. Non, ce n'est pas dans le mobilier, ce n'est pas la même chose. C'est un truc à part. On a l'impression, donc, même le matériau qu'on allait apporter, là, il marquait clairement, toi, tu vas ordonner qu'on apporte vers toi, qu'on apporte à toi, on t'apporte à toi, mon cher, le matériau de du Aaron. Pas du Aaron, de la menorah. À savoir donc l'huile. Donc c'est pas la fabrication. Là maintenant, tout à coup, c'est un peu étrange parce que on parle d'un matériau pour le fonctionnement. D'accord? L'huile, c'est pas un matériau qui va rester tel quel. C'est le fonctionnement. On allume, ça brûle, on allume, ça brûle, on allume, ça brûle. Donc c'est un peu intermédiaire. C'est à la fois un mobilier, il y a la menorah, mais c'est tout à fait particulier parce que cette menorah, ce sera de la lumière, mais évidemment, ce n'est pas une lumière qui est là pour éclairer. Hachem n'a pas besoin, dans la résidence d'Hachem, on n'a pas besoin de lui installer l'électricité. On n'a pas besoin de lui installer de la lumière. Ce n'est pas pour qu'il y voit clair. Et donc, on va allumer, ça va éclairer. Mais qu'est-ce que ça va éclairer? À l'intérieur, c'était parfaitement clair. Alors, vous vous souvenez, on a... Les fenêtres qu'on faisait, c'est des fenêtres qui étaient faites pour diffuser la lumière et pas pour laisser entrer la lumière. Elles sont construites à l'envers, d'accord, pas pour capter la lumière et l'amener à l'intérieur, mais pour la diffuser vers l'extérieur. Donc là, on comprend bien que les halakhot de Hanouka הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, on n'a pas le droit d'utiliser les lumières de Hanouka. Elles sont faites pour être vues, mais pas, elles ne sont pas fonctionnelles, et elles sont aussi quelque chose qui diffuse une lumière. Quand vous rentrez chez vous à Hanouka, vous voyez la, ben vous avez allumé, mais quand vous entrez après avoir allumé, si ça se trouve, vous voyez la Hanouka quand vous entrez chez vous, mais quand vous êtes chez vous, vous ne voyez plus rien du tout. Par contre, les gens qui passent devant chez vous, ils voient que vous avez allumé les nérodes de Hanouka. Parce qu'on allumait devant la maison. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que on n'est pas chez nous, quoi. Alors, on ne le fait pas. Mais alors, certains allument vers la fenêtre, quand ça a un sens. Mais bon, finalement, on allume à l'intérieur. Quelque part, on le voit aussi. On peut presque dire qu'on y a gagné quelque chose, c'est-à-dire que du fait qu'on allume à l'intérieur, alors on les voit, les nérodes de Hanouka. Parce que quand on allume à l'extérieur, on ne les voit pas vraiment. Alors éventuellement, vous voyez les nérodes de l'autre, mais pas les vôtres. Le voisin d'en face, si vous avez une fenêtre qui vous permet de voir sa porte. Et donc là, on voit très bien qu'il y a une parenté entre la lumière de la menorah et la lumière de la menorah de Hanouka, qui n'est pas la menorah, bien sûr. Quand la menorah de Hanouka, elle a 8 branches parce qu'il y a 8 jours de Hanouka. La menorah du Beit HaMikdash, même du Mishkan, elle est à 7 branches. Une centrale et trois de chaque côté. Et donc là, on voit très bien une espèce d'évolution. On a quelque chose qui est pas un mobilier au sens... elle n'est pas là pour rester allumée en permanence non plus. C'est tamide, on allume tous les jours, mais on allume. Il y a une opération. C'était pas fonctionnel, mais c'était. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'était quelque chose. Ça faisait partie du fonctionnement du Mishkan. Et puis ensuite, on va passer au begadim, aux vêtements des Kohanim. Alors, avant d'entrer dans ces vêtements des Kohanim, il faut que je précise que on peut se demander pourquoi il faut des vêtements pour les Kohanim. Et la question peut la rendre encore un peu plus forte en disant que pendant les 8 jours d'inauguration du Mishkan, le Kohen Gadol en service, c'était Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui était le Kohen Gadol. Et Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait pas de vêtements spéciaux, les vêtements du Kohen Gadol. Lui, il était avec des vêtements blancs, c'est tout. Donc, on voit que on peut très bien imaginer qu'on n'ait pas besoin de vêtements pour faire la avoda. Et néanmoins, en ce qui concerne les Kohanim, après les 8 jours de Moshe, les Kohanim, eux, c'est impératif qu'ils aient des vêtements, au point qu'on dit Bigdem Alehem Keunatam Alehem, Keunatam Alehem, oui, En Bigdem Alehem, En Keunatam Alehem. C'est-à-dire qu'un Kohen, même Aaron, si Aaron faisait la Avoda sans les Bigdem, sans les vêtements du Kohen, alors c'est comme si un non-Kohen avait fait la Avoda. Elle n'est pas saoule. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le vêtement fait le Kohen, parce que si un non-Kohen met le vêtement, il ne devient pas Kohen. Mais un Kohen qui n'a pas ses vêtements, il n'est pas Kohen non plus. Et les vêtements, alors, ce qu'on envoie dans des vêtements, c'est d'abord les vêtements d'Aaron. Dans le verset 2, Vasita vigde kodesh le Aaron achicha. Tu feras des vêtements kodesh, saints, pour Aaron ton frère. Et qu'est-ce qu'on nous dit de ces vêtements? Ils seront le chavod ou le tifaret. Ils seront pour l'honneur, si on veut, pour donner l'importance, et pour la splendeur. Ça, c'est pour les begadim d'Aaron qui sont le chavod ou le tifaret. Ah, chavod et tifaret, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que les vêtements, ils sont là pour le chavod et le tifaret? Kavod, ça veut dire qu'il y a un dévoilement, mais au sein des lois de la nature. Comme on dit dans le pasouk, on dit Mlocho la'aretz kvodo. Sa gloire remplit la terre. C'est-à-dire que dans les lois de la nature, dans la nature, on voit le kavod, on voit la gloire divine, on voit l'extraordinaire dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, dans le normal. C'est impressionnant. Ça donne du poids. C'est un dévoilement qui est au-dessus des lois de la nature. C'est miraculeux en quelque sorte. Ou bien c'est la suite de la prophétie. Bien, c'est la Torah, parce que la Torah est au-dessus des lois de la nature. La Gemara dit Tiferet, c'est Matan Torah. La splendeur, c'est Matan Torah. Donc, deux types de dévoilement dans le Mikdash, dans le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire, dévoilement? Le Ramban, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, le Ramban considère que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Sinaï. Mais le dévoilement du Sinaï, d'une certaine manière, c'était un moment. C'était un événement. Alors Ramban dit que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. C'est un Sinaï permanent. Hachem se dévoile dans le Mishkan de la même manière qu'il s'est dévoilé comme il s'est dévoilé au Sinaï, il se dévoile là. Mais d'une certaine façon, le dévoilement du Mishkan est plus grand que le dévoilement du Sinaï. D'abord parce qu'il est permanent. Et que il a l'avantage d'être un dévoilement caché. C'est un peu paradoxal qu'un dévoilement caché. Mais le dévoilement du Sinaï, c'était son et lumière. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'ils ont fait le Vaudor. Il y avait trop de pubs. C'est le Midrash qui le dit. Il n'utilise pas le mot pub, mais c'est la traduction. La présence divine dans le Mishkan, c'était beaucoup plus discret, etc., mais elle était là en permanence. Alors, il y avait aussi du kavod dans le Mishkan. C'est-à-dire que dans le Mishkan, il ne fallait pas qu'il y ait de faute. C'était justement un processus, c'est là-bas qu'il y avait le processus de tshuva et de kapara pour les fautes. Ça veut dire que dans les Sfarim, on dit que tous les ustensiles du Mishkan, chacun d'entre eux avait une capacité d'apporter la kapara. Alors, cette capacité d'apporter la kapara, la Gemara dans Echin, excusez-moi, tout à coup.
Voilà, c'est rétabli.
Oh, c'est mon ordi. Je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement parce que mon ordinateur, il a cru qu'on était en avion. C'est en train de s'envoler un peu trop. C'est... Donc, tous les Kelim participe à l'opération Kapara, qui est fondamentale parce qu'il ne peut pas y avoir du chet, des fautes, dans l'enceinte du Mishkan, dans la résidence divine. Dans le palais du roi, il n'y a rien de permis, quoi. Les fautes ne sont pas permises. Dans la menorah, comme je vous ai dit, on mettait du carburant, de l'huile d'olive, donc, dans chacune des petites lumières, dans chaque branche de la menorah, on mettait la même quantité. Mais le lendemain matin, la branche centrale, qui s'appelle le nerf Maravi, qui était considéré comme étant du côté de l'ouest, lui, il brûlait encore. Il est souvent arrivé que on ait dû éteindre le soir pour quand le Kohen Gadol venait pour allumer les Nerot pour le jour d'après. Il fallait nettoyer, bien sûr, il fallait d'abord nettoyer tous les restes de la combustion du jour précédent, changer l'huile, changer les mèches. Et certaines fois, il fallait commencer par éteindre le nerf Maravi, la branche centrale. Et on disait justement que ce miracle, si vous voulez, c'est que cette espèce de ce miracle-là qui avait lieu de façon régulière au Mishkan, dans le Mishkan, et d'ailleurs aussi au premier Beth Amikdash. Chazal dit, c'est Edut, c'est un témoignage chez Ashrina Shruya d'Israël, qui a présence divine dans le clan Israël. Vous voyez que le miracle de l'huile qui a eu lieu à Hanouka, ce miracle de l'huile, il avait lieu tous les jours. Dans le Mishkan, par exemple, dans le premier Beth Amikdash. Vous mettez une certaine quantité de combustible et ça brûle bien au-delà de ce que ça aurait dû brûler, puisqu'on n'en mettait pas plus dans la branche centrale. Et ça brûlait néanmoins beaucoup plus longtemps. On dit que la Shekhina, elle est du côté de l'ouest. Dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Si on avance un petit peu dans le chapitre 29, Taftet, verset 42, même bête. Donc le pasouk dit là-bas, en pasouk 22, il dit Olat Tamid le Dorotechem, Petach Oel Moed, Lifne Hashem, Asher Ivaed Lachem Shama, Ledaber Elecha Sham. Donc, Pasouk dit donc que il y aura une, tu amèneras Olat Tamid le Dorotechem. Tu amèneras une Ola tous les jours, Tamid, toutes les générations, à la porte du Oel Moed, d'Ifne Hashem, Asher Ivaed Lachem Shama, c'est l'endroit où j'aurai mon rendez-vous avec vous, là-bas, Ledaber Elecha Sham, je te parlerai, je parlerai à toi, c'est Moshe, Sham, là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va parler là-bas? De quoi parle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi explique. Rashi dit, Asher Ivaed Lachem, Rashi dit, que chez Ekva Moed le Daber Elecha. Lorsque, dit Hashem, lorsque je fixerai un moment pour te parler, pour parler avec toi, Moshe, Sham Ekveno Lavo. C'est là-bas que je fixerai de venir. Alors, Rashi ramène. Veyesh merabotenu. Certains de nos maîtres disent de là que me'ala mizbech hanechoshet haya kadosh baruch hu medaber im Moshe, mishehukam ha-mishkan. Qu'à partir du moment où on avait érigé le Mishkan, vous vous souvenez, quand on a fabriqué, fait terminer la fabrication du Mishkan, ils ont essayé de le monter, il était sur le sol, il fallait le monter, personne ne pouvait le monter. Alors c'est Moshe qui, lui, Moshe, il pouvait le monter, mais tous les jours, il tombait, il fallait le remonter. Jusqu'à ce qu'Hachem aide Moshe à le monter et qu'il puisse tenir sans qu'il s'effondre chaque jour. Alors, à partir de ce moment-là, Hachem, quand il parlait à Moshe, il lui parlait dans le Mishkan. Mais où dans le Mishkan? D'où sortait la voix que Moshe Rabbeinu entendait? Alors, certains disent, c'est Yesh Merabotenu qui disent que ça sortait du Mizbah HaNechoshet, de l'autel de cuivre, c'est-à-dire l'autel dont on a parlé dans la parasha Trouma, on a donné les dimensions, etc. Riesh Omrim, mais il y en a d'autres qui disent, mais à la kaporet, que la voix, elle sortait, elle venait du couvercle du Aaron. Ce couvercle dans lequel il y avait les fameux Krouvim, les deux chérubins, deux Krouvim, et on disait que la voix, elle sortait entre les deux Krouvim. Donc, il y a une marloquette. Est-ce qu'elle était sur le... ça venait du Mizbeach, la rochette, ou est-ce que ça venait du Kodesh HaKodashim, de Kaporet et entre les Krouvim. C'est un pasouk qui dit Védibarti itra me'al kaporet. Un pasouk qui dit je parlerai avec toi d'au-dessus du Kaporet, d'au-dessus du couvercle du Aaron. Va'asher evaed lachem qui est dit là, eno amour à la misbeach, et là à oel moed al nizkar be mikra. Quand le verset dit je te parlerai de là-bas, je te donnerai rendez-vous là-bas. Ici, ça parle de façon générale du Mishkan et pas d'un point bien précis. Ici, il n'est pas dit de quel point du Mishkan sortira la voix. Alors, il y a ici un enseignement du Mashgiach de Rav Volbe. C'est le suivant. Il explique que, c'est comme ça que c'est écrit dans les Sfarim, qu'est-ce que c'est qu'un Gilouï? Qu'est-ce que c'est que ce fameux un dévoilement de la présence divine? Ce dévoilement de la présence divine, on pourrait penser que, là, justement, il y a des endroits qui sont favorables à ce dévoilement. C'est un lieu favorable au dévoilement. Donc alors, on apprend justement ici que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pour qu'il y ait dévoilement, il faut qu'il y ait bitul mechitzot. Il faut qu'il y ait annulation de toutes les barrières, en fait. Ça veut dire que pour qu'il y ait dévoilement, ce qui est important, c'est que rien ne s'y oppose. En d'autres termes, le dévoilement peut avoir lieu un peu n'importe où, mais il faut qu'on obtienne qu'à cet endroit-là, rien ne s'oppose au dévoilement. C'est toujours la même idée, c'est que si vous voulez, avec Hachem, il peut pas y avoir Hachem et quelque chose d'autre. Quand Hachem se dévoile, il se dévoile pas, et aussi à côté de lui, il y a un dévoilement d'autres choses. Donc il faut enlever il faut faire le vide, nettoyer. C'est pour ça que certains disent que le lieu du dévoilement, c'était le Mizbeach, l'autel. L'autel, c'est un endroit où on va monter la viande, on va la griller, on va la brûler. On va brûler aussi les mourim, les entrailles qu'on met sur le Mizbeach. C'est-à-dire, c'est ça le principe du Korban. Le Korban, c'est une procédure. C'est bien clair, je pense, pour tout le monde, que la traduction de Corban par sacrifice, c'est à peu près n'importe quoi. Il n'y a aucune dimension sacrificielle dans Corban. En Corban, la racine, c'est Karov. C'est une procédure qui nous permet de nous approcher d'Hachem. Et comment est-ce qu'on s'approche d'Hachem? En s'annulant devant lui, en quelque sorte. Toute la procédure du Korban, le Ramban l'explique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on on apporte un animal, on fait la shrita de l'animal, on recueille son sang, on fait de l'aspersion du sang, ensuite on va dépecer l'animal et la viande, on va la mettre tout ou partie sur le misbeach, à brûler. C'est quoi? Chacun doit considérer qu'en réalité, pour s'approcher d'Hachem, il me faudrait faire tout ça. Il faudrait que ma composante matérielle disparaisse complètement. Et comme les sacrifices humains sont interdits, alors il y a substitution. D'accord? Le premier à avoir procédé de cette manière-là par la substitution, vous vous souvenez, c'est Avraham Avinu. Quand il n'a pas pu faire la Akedah d'Yitzhak, c'est marqué, il a vu le fameux bélier qui était pris dans les buissons, là, qui était là, Mishetim et Breshit. Il a pris ce bélier et il l'a approché là, à la place de Yitzhak Avinu. Au point que, par la suite, on parle d'une urne dans laquelle il y avait les cendres de Yitzhak Avinu. Bon, j'ai dit Abraham, mais c'était Yitzhak. Les cendres d'Yitzhak. Yitzhak n'a jamais brûlé. Mais le substitut d'Yitzhak, le bélier, était substitut. Les corbanotes qui ont été approchés avant Abraham, c'était des cadeaux. Un cadeau. Ça reste toujours une possibilité d'apporter des cadeaux, mais quand il s'agit d'un corban, il y a obligatoirement une dimension où l'homme comprend que pour s'approcher d'Hachem, que pour qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, il faut qu'il y ait un bitoul, qui est une annulation de toute la composante matérielle. Et donc, le lieu de l'annulation de la composante matérielle, c'est le lieu de la destruction de la composante matérielle, c'est le Misbéach. Et l'autre endroit où il y a aussi annulation de la composante matérielle, c'est le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, tout est purement spirituel. Dans le Kodesh HaKodashim, vous savez probablement que quand on fait le compte de la place qui est prise par les Kruvim, quand ils déploient leurs ailes, etc., et les dimensions du Mishkan, quand on fait le compte, il n'y a pas de place pour le Aaron. L'Aaron n'a pas de place. Alors on dit Aaron et Nominamida. Le Aaron, il ne fait pas partie de la mesure des choses. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie. Le Kodesh HaKodashim, c'est un autre monde. Dans chaque monde, il y a une notion de mesure. C'est-à-dire, il y a des instruments de mesure adéquats pour le monde en question. Et quand on mesure des choses qui se passent dans un monde avec des instruments de mesure qui n'appartiennent pas à ce monde-là, on n'y comprend rien. Et c'est bien ça qui se passe quand les gens ne comprennent pas ce qu'on fait dans la Torah. Ils mesurent ce qui se passe dans le monde de la Torah avec un maître qui est là pour mesurer ce qui se passe dans le monde courant. Ce qui se passe dans un Shabbat, ce qui se passe dans tout ce qui est du huitième jour, tout ce qui est la Mila, tout ce qui est Shmini Atzeret, toutes ces choses-là qui n'appartiennent pas à ce monde. C'est pas dans le monde, c'est le Mala Milateva. C'est tout ce qui est de l'ordre du Tiferet, ici. Le Mishkan, si on veut penser le Mishkan avec les instruments du Olam Hazé, on n'y comprend rien du tout. Mais aujourd'hui c'est clair, mais en physique aussi c'est comme ça. Chaque monde a sa mesure, si vous voulez. Une mesure qui dépend du monde lui-même. Donc, essayer de mesurer, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, mesurer, c'est pour essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre les choses avec le mauvais instrument, ça ne peut pas marcher. Votre instrument, il ne va pas vous donner les bons résultats. C'est aussi quand on essaye de comprendre, je ne sais pas, le paléolithique ou je ne sais pas quoi, avec nos instruments de maintenant, avec nos raisonnements à nous, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas. On ne comprend même pas la langue du Moyen-Âge. Qui est pourtant le mode d'expression. Si vous parlez avec quelqu'un du Moyen Âge, il vous parle français, hein. Mais c'est pas la langue qu'on connaît. Non, il n'y a pas si longtemps que certaines choses ont changé. Nous, on parle On va dire, par exemple, que je sais pas, Louis XIV dit « L'État, c'est moi ». Il n'a sûrement jamais dit ça. Il a peut-être dit « L'État, c'est moi ». C'est pas moi. Moi, c'est parisien. Moi, il paraît que ça date de la Révolution française. Le peuple à Paris a imposé, et la noblesse, et tout le monde a suivi. On dit moi, on ne dit pas moi. Le roué, c'est moi. C'est une autre langue. Mais c'est notre langue, en fait. Enfin, notre. C'est la langue des Français. C'est aussi une mesure. Tu essaies de comprendre avec des instruments de mesure, utilise des instruments d'ici pour aller comprendre ce qui se passe ailleurs. Tu n'as pas beaucoup de chances de réussir. Bon, alors ça, dans certains domaines, les gens ont bien compris ça. Je veux dire. C'est souvent, même quand la Torah, elle décrit les choses, elle dit que les idolâtres, ils adoraient du bois et de la pierre. C'est possible qu'il y avait des ploucs qui adoraient ça, mais a priori, ils étaient bien plus intelligents que ça. C'est une façon de faire, il y avait ces statues, mais ils pensaient que ça représentait des choses. C'était pas simplement un bout de bois. À partir du moment où vous avez des peuples qui comprennent ce que la nature, elle leur parle. Bon, la nature, elle nous parle un certain langage. Et qui est pas, par exemple, c'est pas le langage scientifique. Bon, chacun de vous parle d'un lever du soleil, d'un magnifique coucher de soleil. Le soleil ne s'est jamais levé, il ne s'est jamais couché, n'est-ce pas? On sait très bien que le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. Mais nous, on expérimente les choses. Nous, on voit qu'il se lève et qu'il se couche. Et on sait bien qu'il ne se lève pas et qu'il ne se couche pas. On sait bien qui tourne autour de qui. Les gens qui, je ne sais pas, qui ont jamais vu la mer, par exemple, ils peuvent très bien penser que la Terre, elle est plate. Et quand vous marchez sur la Terre, vous marchez pas, vous ressentez pas la courbure de la Terre. Donc, il faut avoir, regarder, je ne sais pas, la mer ou une grande étendue pour voir la courbure, éventuellement. Mais autrement, on ne peut pas voir la courbure. Mais on sait bien que la Terre n'est pas plate. Mais personne n'expérimente la Terre. Enfin, pas personne, mais ça dépend. Quand vous voyagez, etc., si vous comprenez ce que vous faites, vous vous rendez bien compte. Mais a priori, dans la vie courante, le type qui n'est pas sorti de son village et de ses pâturages, il n'a jamais expérimenté quoi que ce soit qui lui puisse de faire penser que la Terre n'était pas plate. Il y a des choses qui m'échappent, mais et bien sûr, on sait qu'elle n'est pas plate. Donc, c'est juste que nos moyens de mesurer les choses, il faut avoir les moyens, les vrais moyens pour savoir, pour mesurer les choses. Et donc ici, on nous dit que ces endroits-là, que ce soit un endroit où le bitoul physique, concret, où on détruit le matériau, la matière, on brûle la matière. Donc il fait disparaître, en quelque sorte, les obstacles, le monde matériel qui fait que Hachem ne peut pas se dévoiler. Il pourrait tout, mais il se dévoile pas. Ou bien qu'on se situe dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel il n'y a rien de matériel, tout est purement spirituel. Alors voilà, c'est les endroits où on comprend bien que Hachem peut se dévoiler à ces endroits-là. Et on comprend de la manière aussi pourquoi est-ce que Rashi dit dans le Midrash, sur le pasouk d'après, il ramène un Midrash à Gada, « Altikri bichvodi ela bimchubadai » C'est-à-dire, le Mishkan, il a été sanctifié par la mort de Nadav et Avihu. C'est pas une sanction. Ça fait partie de l'inauguration elle-même. C'est ce qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu. Mikrovaya Kadesh. Je serai sanctifié par mes proches. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit à Aaron. Il lui a dit, je croyais, quand Hachem m'a dit ça, je croyais que ce serait toi et moi qui allions mourir. Et tu vois, ils étaient plus grands que nous, plus proches d'Hachem que nous, Nadav et Avihu. Il ne lui a pas dit un mensonge pour le consoler. Si Hachem a dit il sera sanctifié par ceux qui sont les plus proches, ça veut dire que Nadav et Avihu étaient plus proches, d'une certaine manière, que Moshe et Aaron. C'est-à-dire que par la itzbatlut, par l'annulation, la néantisation des plus grands, Hachem est sanctifié. Je vais essayer d'expliquer les choses de la manière suivante. Pour certains, c'est un rappel. Quand dans la troisième bracha de la connaisserie de la Amida, on dit Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechodyom Yalucha. C'est là. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Barach est Kadosh. Il est Kadosh. Et son nom est aussi Kadosh. Pourquoi on dit les deux choses là? Alors, je ne sais pas si c'est le pshat. Le pshat que je me raconte ces derniers temps, c'est le suivant. On est dans les trois premières brachot, on est dans l'éloge du roi. Quand on arrive chez le roi, avant de parler, il faut faire son éloge. Après, on va pouvoir demander ce qu'on a à demander. Mais en attendant, il faut dire. Alors, je ne veux pas maintenant expliquer tout, je vais seulement expliquer la troisième. Enfin, il y a quelque chose sur la troisième. On parle de la Kdusha. Kadosh, ça veut dire séparé. D'accord? Plus c'est séparé, plus c'est Kadosh. Quand quelque chose est Kadosh, concrètement, quand quelque chose est séparé, alors par exemple, la séparation, elle peut se faire à des niveaux de hauteur. Et donc, quand quelque chose est à une certaine hauteur, je l'expérimente comme. C'est plus grand que moi, c'est impressionnant, c'est séparé. Et plus c'est haut, plus c'est séparé. Et si séparé, si par séparé, j'entends la Kdusha, plus c'est haut, plus il y a de Kdusha. Alors, ouh, Itbarach, il est Kadosh d'une Kdusha à laquelle on ne comprend rien du tout. Il est l'Abdoucha par excellence. Mais pour que ce que nous disons quand nous faisons la bracha sur l'Abdoucha, ça ait un peu de sens, alors il faut le ramener un peu à notre hauteur. Alors, il y a une Kedusha inférieure à l'Abdoucha Toïd Barach, qui est l'Abdoucha de son nom. Le nom divin est Kadosh. Il est très très haut, ce nom divin. Vous savez, il y a toute une hiérarchie entre les noms divins. Et on parle ici du tétragramme, qui est le plus haut nom divin. Enfin, le plus haut, peut-être avec le... Eke Asher et Eke aussi, c'est très 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 haut. Bon, là c'est le grand nom divin. Donc, mais c'est inférieur, donc c'est quelque part, c'est un peu plus à notre hauteur. C'est encore beaucoup trop. Alors maintenant, pour comprendre quelque chose, je vais dire les Kdoshim, ceux qui sont Kadosh, pour moi, ils disent que tu es Kadosh. Alors, si vous voulez, certains disent que les Kdoshim dont on parle, c'est les anges. Les anges proclament Kadosh, 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 Kachem et Kadosh. Alors, nous, on a déjà, les anges, c'est déjà très, très haut. Mais eux, quand ils parlent, ils disent qu'il est Kadosh. Alors, on a besoin comme une espèce de rampe de lancement ou d'échelle pour pouvoir nous approcher de quelque chose, de quelconque manière de pouvoir penser un peu la Kdusha. Alors, pour moi, Kdoshim, c'est quoi? C'est quoi les Kdoshim? Le Kadosh, ce sont mes maîtres. Et mes maîtres, je connais un peu quels étaient leurs maîtres. J'ai mon maître, au-dessus de moi, il y a le Hafetz Chaim. Et puis, si je fais des grands pas, il y a le Gaon de Vilna. C'est ceux pour lesquels j'ai à peu près une idée de. Je ne comprends pas grand-chose, mais un peu une idée. Après, ça me dépasse complètement. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un Tana? Je n'ai pas aucune idée. C'est tellement grand que. Qu'est-ce que je peux dire sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Shimon? Et qui va. Et puis si on continue, quoi, c'est qu'on peut dire quelque chose sur Hizki Ameler, est-ce que je peux dire quelque chose sur David Ameler, sur Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, l'idée c'est les Kedoshim, ceux qui sont, que moi j'appelle Kadosh, ils disent sur d'autres qui sont Kadosh, qui disent aussi qu'ils sont Kadosh. Quelque part, on a une espèce d'échelle. Pour penser la Kdusha. Et donc, quand je dis quelque chose, je veux que ça représente quand même quelque chose pour moi, ce ne sont pas vraiment des mots. Alors, c'est comme ça que j'entends les deux échelons que les Rachamim ont mis dans cette troisième bracha, pour que j'arrive à dire quelque chose qui fait sens, quoi, qui est compréhensible pour moi. Chacun fait ce qu'il pense, hein, mais bon, je vous dis ce que j'ai pensé là-dessus. Alors, j'ai pensé aussi que quand les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, au moment des Aseret HaDibrot, ils l'ont dit, il ne faut pas qu'Hachem nous parle, c'est trop. On en meurt, ouais, d'accord, on ressuscite, mais on l'a déjà fait deux fois, mais qui sait si la troisième fois, on va vraiment revivre. Alors, Daberata Imanu, c'est toi qui vas nous parler. En quelque part, les Bnei Israël, qui ne pouvaient pas supporter la hauteur de la Kdusha, ils ont mis un faux plafond, quelque part. Ils ont dit, nous, on veut te voir, toi. On sait que toi, tu vois Hachem, quoi, quelque part. Donc, toi, tu peux dire d'Hachem qu'il est Kadosh. Nous, on peut dire de toi que tu es Kadosh, mais nous, c'est plus facile de penser la Kdusha, ça nous fait moins peur, etc. On n'en meurt pas si on t'entend, toi. Et donc, d'une certaine façon, Moshe et Aaron, peut-être de la même manière, Moshe, il diminue la Kdusha d'Hachem pour les Bnei Israël, puisque c'est lui qui est le Kadosh pour les Bnei Israël. Alors il a pensé, Bikrovaï et Kadesh, ça veut dire ceux qui sont proches de moi, c'est-à-dire, non, j'ai pensé, c'est nous. Ben, nous, on va mourir. Parce que maintenant, les Bnei Israël, peut-être qu'ils sont assez grands pour pouvoir appréhender la hauteur divine sans nous. Donc, on nous enlève, nous, Et donc, quelque part, la vraie hauteur arrive. C'est ça que mon cher Abeno avait compris. Et qu'on sait que c'est eux. Parce que, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils disparaissent? Parce qu'eux, ils étaient adéquats pour un clan d'Israël débutant, les premières années du clan d'Israël. Et maintenant, enfin les premières années, le début, mais maintenant qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont un Mishkan, etc., peut-être que voilà, on n'a plus besoin de nous. Ce que pensait aussi Nadab et Abihu, ils pensaient qu'on n'a plus besoin. Le Midrash dit que Nadab et Abihu, ils marchaient derrière Moshe et Aaron et ils disaient, mais quand est-ce que ces deux-là vont laisser la place pour que nous, nous guidions le clan d'Israël? Ce n'est pas qu'ils voulaient le pouvoir comme ça. Ils étaient persuadés, visiblement, peut-être qu'ils avaient raison, qu'eux pouvaient guider le clan d'Israël à ce moment-là. En d'autres termes, si vous voulez, j'utilise toujours ces images, on avait besoin de Moshe Rabbeinu pour la phase, et d'Aaron pour la phase de démarrage. Mais quand on est arrivé à la vitesse de croisière, on n'a plus besoin d'eux. Et Nadav et Avihu pensaient, ben nous qui sommes la nouvelle génération, nous, on peut diriger le clan d'Israël, et nous, on va diriger le clan d'Israël, et on va les aider à être en vitesse de croisière. Pas dans la montée en zigzag, etc., jusqu'à la vraie hauteur, qui est la phase de démarrage. Et c'est pour ça que Nadav et Avihu, à l'inauguration du Mishkan, il ne voulait pas que le feu vienne du ciel. Pourquoi il faut que le feu vienne du ciel? Pour qu'on ne se trompe pas que le Mishkan, je l'ai dit souvent que le Mishkan, le Bet Hamikdash, etc., c'est les endroits où on peut facilement oublier Hachem. Parce qu'il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser qu'on risque d'oublier Hachem. Mais Nadav et Avihu disaient, on n'a plus besoin maintenant de ça. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ces intermédiaires qui sont là pour nous faciliter le travail, etc. On est grand. Et c'est pour ça que eux, Hachem, lui, il avait décidé qu'à l'inauguration du Mishkan, pour qu'on n'oublie pas que finalement c'est Hachem, on n'amènerait pas le feu sur les autels, sur l'autel, mais que le feu viendrait du ciel. Pour qu'on voit bien, qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas parce qu'à l'inauguration, on se rappellera, à l'inauguration, le feu est venu du ciel. Et Nadav Avihu, ils sont allés et ils ont amené le feu comme on allait l'amener par la suite. En vitesse de croisière, on allume bien les ktorets. Et quand le nuage odorant s'est formé, à ce moment-là, on l'amène. Quand vous recevez des gens, si vous faites brûler de l'encens, vous n'allez pas allumer quand les gens sont là. On allume à l'extérieur quand c'est joli, quand c'est déjà les bonnes odeurs et tout, et pas le brûler, ben à ce moment-là, on peut le mettre dans la pièce. Madame Abihu, il voulait ça. Et ils l'ont fait. Et Hachem les a détruits. Le feu lui-même les a détruits. Pourquoi? Parce que Hachem a décidé que c'est vrai que vous êtes très fort, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, ceux qui étaient vraiment très proches, mais très proches au sens, ils sont d'une proximité différente de celle de Moshe et d'Aaron, c'est la proximité de la vitesse de croisière, et pas la proximité pour l'enfance du clan d'Israël. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, la gloire divine, elle était perceptible par la disparition de ceux qui l'empêchaient d'être vu dans toute sa hauteur, à savoir les intermédiaires. Alors finalement, c'est pas ça qui Nadav et Avihu, ils ont empêché aussi, parce que c'était pas la gloire divine telle que Hachem voulait qu'elle soit perçue à ce moment-là. Donc, ils n'étaient pas adéquats. Voilà, on va s'arrêter là.